Chapitre 11. Le cyclone. Karl Kressler ne répondit que par un murmure affirmatif à la remarque du lieutenant Brown. Le bandit, pour l'instant, ne pensait pas au cyclone. Il tâtait dans sa poche le Browning tout armé qui s'y trouvait et dont il comptait se servir dans le plus bref délai possible. Kressler était préoccupé. Sur les 4 marins américains, 2 seulement se trouvaient sur la passerelle au côté du midship. Les 2 autres devaient être occupés à quelques besognes sur le pont. Mais où ? Kressler osait le demander au jeune américain de craindre d'éveiller sa méfiance. Un contretemps bien fâcheux en vérité. Kressler, bien qu'il eût donné ses instructions à Stein, préférait agir lui-même. Il avait peur de quelques bévues de son acolyte. Si Stein manquait, les 2 à flot, ceux-ci pouvaient très bien lancer quelques signaux au croiseur. D'autant plus que Stein manquait de sang-froid et était bien capable d'agir avant le commencement de la tempête. Et toujours le calme absolu. Mais maintenant, une obscurité sinistre planait sur l'océan. Plus une étoile, plus la moindre lueur. L'on eût dit qu'une main invisible avait tendu un voile opaque sur le ciel. La houle elle-même s'était apaisée. Les 2 navires glissaient sans un ressaut, comme sur un lac. Un mile en avant de l'Adler, Kressler distinguait quelques points lumineux, les lumières de la mer Mide. Mais le croiseur lui-même devenait invisible, noyé dans les ténèbres ambiantes. Kressler regarda Brown. Le midship, enveloppé dans sa capote de toile huilée, était debout auprès du compas, et la faible lueur de l'habitacle éclairait son visage imberbe. Vraiment, il ne se doutait de rien. Ses 2 marins, accoudés à la rambarde à quelques pas de lui, contemplaient les lumières du croiseur sans prononcer un mot. Mais où donc étaient les 2 autres ? Le ciel, soudain, sembla s'éclairer par en dessous. Une mince bande d'un vert livide apparut au ras de l'horizon, tandis qu'une brise légère fouettait les flots calmes et soulevait de petites vagues. Lentement, la bande verte s'élargit. Le vent tourna et passa de l'est au nord, puis du nord à l'ouest. Et de nouveau, tout s'apaisa. Mais c'était un calme trompeur. Le ciel brusquement s'embrasa. Une bourrasque d'une violence inouïe s'éleva d'un coup, couchant le petit navire sur le flanc comme un fétu. La mer parut se gonfler. Une lame énorme arriva en mugissant sur l'Adler, dont le pont fut balayé de l'avant à l'arrière. Un cri de détresse s'entendit, presque couvert par le mugissement des éléments. Man overboard ! Un homme à la mer ! Kressler ne bougea pas. Le midship Brown, très pâle, se tourna vers lui pour demander conseil. La catastrophe le trouvait impréparé. Il ne savait que faire. Mais si nous stoppons, nous sommes perdus, fit brièvement le bandit. Pas une embarcation ne tiendrait par une mer pareille. Et c'était vrai. Le midship n'insista pas. En quelques instants, mer et ciel se confondirent. L'océan, creusé, bouleversé, refoulé par le cyclone, ne fut bientôt plus qu'une succession de tourbillons, de lames énormes, de masses d'eau sans forme, tourmentées, tournoyantes, que la tempête projetait les unes sur les autres, écrasait, pulvérisait. Les lames s'acharnaient sur l'Adler, qui, incliné sur le flanc, son hélice sortant de l'eau et s'affolant à chaque coup de tangage, gouvernait à grand-peine. Ajoutant au fracas des éléments déchaînés, la coque du petit bâtiment, frappée par les coups de mer, résonnait comme un gond, cependant que la machine s'emballait et faisait trembler le navire dans toute sa carcasse. Sur le pont, balayé par d'incessantes avalanches d'eau écumante, personne. Les marins s'étaient mis à l'abri. Impossible d'ailleurs de voir de la passerelle ce qui s'y passait. Un voile gris opaque fait de milliards de gouttelettes interceptait la vue. Chrysler, les mains crispées à la rambarde, le capuchon de son imperméable rabattu jusqu'aux yeux sur sa tête baissée, recevait les embruns sans sourciller, feignant de ne s'intéresser qu'à la conduite du navire. Le midship, debout non loin de lui, à l'extrémité de la passerelle, se tournait de temps en temps vers le timonier pour lui hurler des ordres que le mugissement de la tempête étouffait. Les deux marins américains s'étaient assis dans un angle à l'abri du coffre à papillons et ne jugeaient pas prêts à obéir aux ordres de leurs supérieurs. Mais où donc étaient les deux autres? Chrysler se répéta cette question pour la 20e fois. Entre deux coups de mer, il leva la tête pour essayer de voir ce que devenait le Mermaid. Il ne distinguait rien. Disparu, fondu, évanoui, le croiseur. Rien qu'un rideau de suie, traversé par des éclairs, et où l'œil se perdait sans pouvoir délimiter l'horizon. Chrysler, se traînant le long de la rambarde, parvint à gagner la chambre des cartes dans laquelle il pénétra. Ayant tourné le commutateur de l'ampoule électrique fixée au plafond, il consulta le baromètre, 718 mm. L'Adler voguait en plein cyclone. De moment à l'autre, il allait en atteindre le centre. La rapidité avec laquelle le niveau du mercure avait baissé indiquait que le météore se déplaçait à grande vitesse. Il fallait aviser. Chrysler, se tenant à une épontille pour ne pas être renversé par les soubresauts furieux du navire, jeta un coup d'œil sur la carte et eut un hochement de tête préoccupé. Il tira son Browning en examina le chargeur. Tout était au mieux. Ayant replacé l'arme dans la poche de sa capote, il éteignit la lampe et sortit juste pour recevoir un énorme paquet de mer qui faillit causer sa perte. Il n'eut que le temps de se retenir à la main courante fixée autour du rouffle. Pendant quelques instants, il resta immobile, étourdi. Peu à peu, il se remit. Ses yeux s'accoutumèrent de nouveau à l'obscurité. Il distingua la lueur de l'habitacle et, non loin de l'homme de barre, la silhouette mince du midship. Chrysler eut une courte hésitation. Il se demandait lequel des trois Américains il devait tuer le premier. Sa décision prise, il referma sa main gauche sur le montant de fer soutenant la traverse qui servait à retenir la tente de la passerelle. Ayant bien assuré son équilibre, il appela « Lieutenant Brown! Lieutenant Brown !» Le bandit était possesseur d'une voix puissante. Le jeune Américain l'entendit malgré la tempête. Il s'approcha en rampant le long de la rambarde. Une lueur rouge déchira les ténèbres. Une détonation sèche se confondit avec le fracas des éléments. Brown, le crâne traversé par la balle du bandit, s'écroula et, entraîné par le roulis, alla buter inerte contre l'écran du feu vert. Les deux marins américains, sans bien comprendre ce qui se passait, se dressèrent en voyant tomber leur supérieur. De nouveau, le Browning de Chrysler claqua. Foudroyés presque à bout portant, les Américains trébuchèrent l'un sur l'autre et, glissant sur le pont mouillé, roulèrent jusqu'à la rambarde. L'homme de barre n'avait pas bougé. Ainsi que les autres membres de l'équipage de l'Adler, il en avait vu d'autres. Chrysler, son pistolet en main, rejoignit ses victimes et, se retenant à la lisse, se pencha pour bien s'assurer que les trois hommes étaient morts. Puis, mettant le roulis à profit, il fit basculer les Américains dans les flots. Il eut un soupir de satisfaction profonde. Tout s'était bien passé. Mais où étaient les deux autres Américains? Pour le savoir, il fallait attendre. Descendre de la passerelle eût équivalu à un suicide. Les lames, de plus en plus furieuses, dévalaient sur le pont avec un bruit de torrent, entraînant tout sur leur passage. Chrysler remit son pistolet dans sa poche et, se retenant à la rambarde, essaya encore, par acquit de conscience, de voir ce que devenait le croiseur. Rien que des ténèbres. Proche ou lointain, le navire de guerre américain était invisible. Chrysler alla regarder le compas. Malgré la tourmente, Landler avait à peu près conservé sa direction vers le sud-ouest du monde. Le bandit gagna la chambre des cartes. Le baromètre n'avait plus bougé. Le yacht devait se rapprocher du centre du cyclone, où le calme règne. Un cyclone, on le sait, est une tempête tournante. Deux mouvements l'animent, un de rotation et l'autre de translation, absolument comme ce qui se passe pour une toupie. La rotation de l'air suit une règle invariable. Elle se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère sud et en sens inverse, dans l'hémisphère nord. Il en résulte que dans le mouvement de translation du cyclone, la trajectoire décrite par le centre divise le tourbillon en deux portions. Dans l'une, le demi-cercle dangereux, les vitesses de rotation et de translation s'ajoutent. Dans l'autre, le demi-cercle maniable, ses vitesses se retranchent. Et quelle que soit l'orientation de la trajectoire du cyclone, on voit que le demi-cercle dangereux est toujours à gauche de cette trajectoire dans l'hémisphère sud et à droite dans l'hémisphère nord. Or, l'Adler se trouvait, on le sait, dans l'hémisphère nord. En venant sur sa droite, c'est-à-dire vers le nord du monde, il devait forcément atteindre le demi-cercle dangereux, ce demi-cercle que les navires s'efforcent d'éviter à tout prix. Chrysler, ainsi qu'il l'avait annoncé à ses acolytes, était décidé à jouer quitte ou double. Il savait que le capitaine de la Mermaid chercherait sûrement à gagner le demi-cercle maniable en tirant vers le sud. Et la preuve en était qu'il avait donné rendez-vous au Midship Brown en un point situé à plusieurs dizaines de miles au sud. Donc, en se dirigeant vers le nord, le bandit était sûr de dépister le croiseur américain, si l'Adler n'était pas englouti par la mer en furie. Mais il lui valait, somme toute, mourir noyé que pendu, et Chrysler savait que si l'Adler était amené dans un port, son sort à lui serait fixé. Il ressortit de la chambre des cartes et, s'étant approché de l'homme de barre, se cramponna au bâti de la roue et hurla dans l'oreille du timonier « Tribord, toutes !» L'homme, un vieux marin brémois qui avait piraté sous toutes les latitudes, eut un brusque haut-le-corps. Il se tourna vers Chrysler, mais sans bouger la roue. Il croyait avoir mal entendu. « La barre à tribord, toutes !» répéta le bandit. « Obéis ou je te brûle !» Le grémois faillit en avaler la clique chic qu'on flançait joue. Gressler avait sorti son pistolet automatique et le braquait à 3 centimètres de sa tempe. L'homme vit luire l'arme à la clarté des lampes de l'habitacle. Il en oublia sa peur du cyclone et précipitamment lança la roue à toute volée. Le servomoteur commandant les drosses cliqueta. Et l'Adler, sous l'influence de sa barre, vint rapidement sur la droite. Il se trouva soudain en travers de la lame, la bourrasque le frappant de flanc. Un formidable coup de tangage le fit s'enfoncer dans les flots jusqu'au mât de misaine. Une lame écumante, véritable montagne d'eau, s'abattit sur le petit navire qu'elle recouvrit jusqu'au tuyau. Elle écrasa sur lui avec un bruit de tonnerre, bruisant, broyant tout ce qui se trouvait devant elle. Chrysler essaya vainement de se cramponner à la rambarde. Il en fut arraché. La cataracte le roula, le souleva et le projeta contre le rouffle avec une telle violence qu'il en perdit connaissance. Pas longtemps, le bandit possédait un corps d'acier et une âme de fer. Meurtri, confus, un bras cassé, le visage en sang, il se releva. Et d'abord, il ne vit rien, rien que les ténèbres. Titubant, il crut rêver. Le timonier avait disparu, enveloppé, enlevé par la mer. Disparu aussi l'habitacle, arraché de sa base par la catapulte liquide. Seul le montant de cuivre creux, soutenant la roue du gouvernail, avait résisté par un hasard inexplicable. Quant à l'Adler lui-même, il roulait comme une barrique, ses bastingages touchant l'eau à chaque coup de roulis. Cependant que les torrents écumants dévalaient sur son pont désert avec un fracas assourdissant. La machine s'était arrêtée. Kressler, bien qu'assommé plus qu'aux trois quarts, saisit la barre et, au toucher, s'assura par l'aiguille fixée au montant de la roue que le gouvernail était bien tout sur tribord. Satisfait, il réussit à atteindre le porte-voix de la machine, car le télégraphe avait été enlevé lui aussi, et hurla « Oh, en bas! Il y a quelque chose de cassé? Répondez !» Il colla son oreille à l'embouchure de cuivre. Un brouhaha confus, formé de pas précipités, de hurlements, arriva jusqu'à lui. Puis la réponse vint. « Presque tous les feux sont noyés. La chaufferie est pleine. Nous en avons pour quelques minutes. Je fais préparer les pompes. »« Faites vite !» répondit simplement Kressler, sans insister. C'était bien inutile, le bandit comprenait fort bien que le chef mécanicien agissait pour le mieux. « Imbécile brut !» grommela Kressler à part lui. « Tous les... » Et une main, en se posant sur son épaule, le fit s'interrompre. C'était Otto Stein. « Je vais donc finir avec les deux Américains !» clama le bandit de toutes ses forces. Mais le vent avait acquis une si grande violence que Kressler n'entendit pas. Il reconnut tout juste la voix de son acolyte. « La machine est pleine d'eau !» lui hurla-t-il dans l'oreille. Et comme l'autre ne comprenait pas, il le poussa dans la chambre des cartes. Le baromètre était à 714. Il avait encore baissé. « Il faut absolument faire de l'ouest !» grommela Stein, lorsque Kressler lui eut expliqué sa manœuvre. « Oh, nous sommes perdus !»« Mais non !» répondit nettement le bandit.